le petit fakir.
Tout le monde a lu ce petit journal.
Bizarre.
Il se le passe.
Pour ne pas dire étrange.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique?
Le petit fakir n'a jamais peur du pire.
Bizarre.
On est avec François Ruffin qui vient nous parler du numéro 43 de Fakir. Et ce numéro titre « La République des héritiers ». Alors, on est un peu surpris, peut-être changement, évolution certaine de la ligne éditoriale de Fakir qui a décidé de prendre la défense de Jean Sarkozy avec un argument un petit peu étonnant qui en gros, d'accord, c'est un fils à papa, mais bon, c'est pas le seul. Et puis alors, pour défendre Jean Sarkozy, vous n'hésitez devant rien, vous faites appel à l'histoire, vous faites appel même à des choses qui se passent ailleurs qu'en France, et puis surtout, vous attaquez à un certain nombre de héros du mouvement ouvrier français pour en dénoncer, dire que même chez eux, ça se passe comme ça. Alors...
C'est vrai, quand il y a eu toute la polémique sur Jean Sarkozy, dont nous sommes des fervents admirateurs, mais quand on fait le relevé ne serait-ce que dans les ministères, du nombre de personnes qui sont les fils et filles d'eux dans les ministères. On a Roselyne Bachelot, qui est fille de député, fille d'un député RPR, Michel Alliot-Marie, de même, Nathalie Kosciusko-Morizet, pareil, Frédéric Mitterrand, bon, lui, c'est un neveu, Henri de Rincourt, en relation avec le Parlement, qui est fils de Philippe de Rincourt, ancien sénateur de Lyon, Marie-Luce Panchard, pour l'Outre-mer, qui est fille de Lucette Michaud-Chevry. Donc rien que sur les ministères, on a quand même 7. C'est quand même étonnant de se dire qu'on a 7 fils et filles d'eux, rien que dans les ministères. Si on regarde dans la gauche, puisque vous en parliez tout à l'heure, que je m'attaquais à des héros du mouvement ouvrier, sur les 4 plus grosses organisations, on va dire, ou les 4 plus vieilles organisations ouvrières françaises, le Parti Socialiste, c'est Martine Aubry, fille de Jacques Delors. Le Parti communiste, le prochain premier secrétaire vraisemblable du Parti communiste sera Pierre Laurent, fils de Paul Laurent, ancien sénateur communiste, on peut dire ancien numéro 2 en gros, sous Georges Marchais du Parti communiste. Jacques Delors ayant été numéro 2, en tout cas candidat pressenti à la présidentielle en 1995 pour le Parti socialiste. Et dernier point, à la CFDT, on a François Chérec, fils de Jacques Chirac, ancien numéro 2.
Devenu ministre.
Devenu ministre, oui, tout à fait, devenu ministre. Mais c'est vrai que là, on se dit, 3 organisations issues de la classe ouvrière, en gros, sur 4 qui sont des fils et filles d'eux. Des organisations qui sont supposées vanter les mérites de l'égalité des chances, de la démocratie, de la République, et ainsi de suite. Et là, on a 3 organisations sur 4. Donc, on s'est demandé, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait autant dans les ministères, mais aussi dans les médias, dans la culture, les partis de gauche, dans les syndicats, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait autant de fils et filles d'eux qui soient au sommet de ces organisations? En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que pour que les fils et filles d'eux succèdent à des sénateurs, à des députés, à des ministres... Il suffit qu'il ne se passe rien. C'est finalement la loi logique de l'évolution que les gens qui sont en place restent en place et quand ils ont cessé d'être en place, si rien ne vient les perturber, eh ben ils passent le relais à leurs enfants. Et c'est un peu ce qui se passe, à mon avis, depuis, en gros, le dernier bouleversement politique, ça a été, on peut dire, mai 1981 ou mai 1968. Et en gros, depuis cette époque-là, il n'y a pas eu une nouvelle classe qui est venue perturber l'ordre des choses, ni dans les médias, ni dans la culture, ni dans la politique. Il n'y a pas une classe qui s'est organisée pour virer les anciens, qu'il s'agisse de Yvan Levaille à la radio, par exemple, de Stéphane Paoli sur France Inter, qu'on entend maintenant depuis un demi-siècle, quoi. Bon, ben, ils sont là, ils y restent, et vraisemblablement, comme Michel Drucker, quand ils le pourront, ils passeront le relais à la génération d'après des Drucker, quoi.
Alors nous, on ne comprend pas bien votre inquiétude, parce que la génétique a quand même montré depuis de nombreuses années que la consanguinité conduisait à la dégénérescence. Alors du coup, on pourrait dire qu'au contraire, la reproduction de classe et leur système un peu en vase clos nous amènerait à la dégénérescence de nos élites et nous permettrait enfin peut-être de prendre le pouvoir.
Mais le truc, c'est que je pense qu'on est, quand tu dis ça, notre article s'intitule « La gauche qui dégénère ». Et effectivement, pour moi, c'est assez symptomatique de qu'il n'y a pas eu un appel d'air frais, qu'il n'y a pas eu des nouveaux membres qui sont venus bouleverser l'ordre des choses, et que c'est en gros les mêmes qui, de façon malthusienne, tiennent les rênes. Mais alors, bon, est-ce que demain, ça va permettre qu'ils soient tellement nuls, manifestement, ils le sont un petit peu, mais qu'ils soient tellement nuls qu'ils seront submergés par les masses populaires? Bon, ben, espère, quoi.
Mais alors, plus sérieusement, l'affaire Sarkozy, entre autres, enfin de Jean Sarkozy, est quand même allée un petit peu trop loin. Il y a eu un certain nombre de réactions, on a hurlé au népotisme. Et puis, on s'aperçoit aussi que, justement, cette classe dirigeante qui s'entretient et qui se reproduit d'elle-même, est quand même un petit peu bousculée par, d'une part, vous en parlez dans l'article, la démocratisation des études, aussi donc par la démocratisation des études, et du coup ils ont besoin un peu de réaffirmer leur légitimité, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus dire aujourd'hui seulement on est légitime comme ça, il faut dire on est légitime parce qu'on le mérite, parce qu'on a des qualités, et donc là on voit se développer une sorte de ce que vous appelez un vernis de mérite en fait, et il y a un mode d'emploi.
Ouais, c'est-à-dire que une chose qui est assez intrigante effectivement, c'est que cette reproduction sociale s'effectue de cette manière-là au moment où sans doute, compte tenu de la démocratisation des études, du niveau d'alphabétisation, ainsi de suite, il n'y a jamais eu autant de personnes aptes à prendre ces places, c'est-à-dire à devenir députés, obtenir des places au sein des grandes entreprises. Dans le monde de la culture, il y a des écoles de design, des écoles de comédiens, des écoles d'art, des écoles de n'importe quoi, d'ingénieurs dans à peu près toutes les villes de province, dans toutes les métropoles de province. Donc ça veut dire qu'il y a toute une population qui est apte à prendre ses postes à la radio, à la télévision, dans le cinéma, dans les partis politiques. Il y a toute une classe qui est apte à la prendre. Donc résultat, il faut qu'ils se serrent d'autant plus les coudes. Il faut qu'ils se serrent les coudes. Donc ça, c'est la consanguinité. Ils se rencontrent à la bolle, on explique un peu ça. Et aussi, il faut qu'ils disent « Non, c'est pas l'hérédité qui fait que je suis là où j'en suis. » C'est le travail, c'est le mérite. C'est le mérite, c'est la démocratie. Il faut pas mettre un vernis méritocratique sur leur hérédité, ce qu'on appelait le dictionnaire des mérites reçus. Et là, effectivement, la première manière d'être légitime, c'est par les études. C'est de venir dire, oui, regardez, moi j'ai mes diplômes qui sont en ordre. Ça, c'est Martine Aubry, par exemple. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'ENA, mes papiers sont en ordre, vous pouvez vérifier mes papiers, tout va bien. Donc, je suis légitime à être première secrétaire du Parti Socialiste. Ensuite, même si ça rate côté études, parce qu'on a un certain nombre de fils d'entrepreneurs, notamment, qui sont nuls côté études, il reste une solution pour se rattraper. Par exemple, c'est le terrain. Vous voyez, oui, moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. C'est-à-dire, si on réussit ses études, on commence au haut de l'échelle, on est légitime. Si on rate ses études et qu'on commence au bas de l'échelle, on est quand même encore légitime puisqu'on a commencé au bas de l'échelle. Et puis, éventuellement, il y a un certain nombre d'autres choses comme le tempérament, on a du caractère, donc vous voyez... le talent.
Les petites filles précieuses des grandes familles n'aiment pas du tout se lever tôt le matin. Graver le problème avant qu'elles se maquillent. En moins de 3 heures, faut prendre un bain et se faire les mains. Elles mangent un petit toast du bout des lèvres avant d'aller courir les magasins. Voir les collections, les tableaux, les orfèvres, c'est fatigant, c'est éreintant, ça c'est certain. Tandis que moi qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, quand je travaille, oui, je me sens bien, et la fortune viendra de mes mains.
Alors juste avant la pause, on parlait justement de gens de talent, de gens de mérite, et il y en a un qui nous a vanté plus que d'autres le talent, le mérite. Il s'appelle Nicolas Sarkozy, on l'a vu évoluer d'abord dans des ministères, particulièrement aux finances, et puis maintenant à la présidence de la République. Et depuis de nombreuses années, il s'affaire à déconstruire l'impôt sur l'héritage et l'impôt sur la fortune.
Oui, c'est un truc que j'ai découvert. Vous savez, on fait des dossiers, et puis en faisant le dossier, ben, on découvre des choses, heureusement d'ailleurs. Et là, ce que je découvre, c'est que ben, quand il arrive pour la première fois comme ministre du budget sous Balladur, quelle est une des premières décisions que prend Nicolas Sarkozy quand il est nommé? C'est de faire la réforme des droits de mutation une priorité de 1994. Alors, qu'est-ce que c'est que les droits de mutation? C'est les droits de succession. Ça, c'est on est donc en fin 1993, début 1994, il fait de ça une priorité. Il revient aux finances 10 ans plus tard, en 2004, et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit qu'il faut que 90% des successions, la quasi-totalité des héritiers, devraient être exonérés d'impôts. Donc là, en 2004, c'est 90% qui ne doivent pas payer d'impôts. Et puis, il revient comme président de la République 3 ans plus tard, en 2007, et là, il dit maintenant, c'est 95% qui doivent être exonérés d'impôts. Donc, à la limite, on pourrait se dire que c'est assez peu surprenant que celui qui s'appelle Nicolas Sarkozy de Nagy Boxa, il me semble, donc c'est-à-dire qui est vraiment d'une lignée d'aristocrates quand même, ait comme priorité, dès qu'il est ministre du budget, de venir réduire les droits de succession pour permettre davantage l'héritage du capital. Et donc, effectivement, ça, c'est plus surprenant. C'est d'autant moins surprenant quand on sait qu'il est l'ami de dynastie, finalement, qu'il s'agisse des Bolloré sur lesquels il va passer ses vacances, des Bouygues avec lesquels il se vante de passer un coup de fil à Martin Bouygues, donc fils de Francis Bouygues, tous les jours au téléphone, ou encore de Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère, dont il se vante d'être le frère. Donc, effectivement, il y a deux éléments qui font que, psychologiquement, Nicolas Sarkozy va faire une priorité de détruire un impôt qui avait mis un siècle à se construire, qui est l'impôt sur l'héritage. Alors là, dans Fakir, on a mené une enquête pour voir un peu comment s'était construit cet impôt sur l'héritage. Et donc, on est reparti, on a vu un peu que ça naît en fait au tournant du 19e et du 20e siècle, où là, on propose que soit taxé à 1%, mais sans progressivité pendant tout le 19e siècle. C'est juste taxé à 1%, l'impôt à verser par le défunt pour que ça soit repris à la suite. Et après, il y a une croissance à 2,5%. Et déjà, pour que ça passe à 2,5% pour les personnes les plus riches, c'est une vraie bagarre qui est menée. Une bagarre qui est menée à l'époque notamment par Jaurès au Parlement, par les socialistes. C'est une bataille qui est menée pour renflouer les caisses d'État. Mais les riches se disent « Ouh là là, ils commencent par nous mettre 2,5% et où est-ce qu'on va aller ?» Et ils ont raison, puisque peu après la guerre, on va en arriver à 20% et ainsi de suite. Et là où ça devient amusant, bon, ça continue à croître, on va dire, jusqu'à à peu près 40%. Et là où c'est amusant, c'est que dans les années 70, c'est remis sur la table par la droite, cette histoire des droits de succession. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat, tous les ans, revient à l'Assemblée nationale, la gauche prend la parole, notamment les élus communistes reprennent la parole à l'Assemblée nationale en disant « ça serait bien de faire un impôt pas seulement sur les revenus, mais aussi un impôt sur le capital. Pas seulement un impôt sur le salaire, sur ce qui rentre, mais un impôt sur le patrimoine. » Et là, la droite dit « Ouh là là, non, ça serait terrible, il faut surtout pas faire ça, puis tout ça. » Et donc, enfin, une partie de la droite, parce qu'il y a une partie de la droite qui dit « Oui, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. » On entend là Michel Poniatowski, c'est quand même assez amusant.
Oui, c'est ça. À cette époque, donc, Raymond Barre est Premier ministre, et aux surprises, c'est Michel Poniatowski qui milite pour plus d'impôts.
Le débat sur la fiscalité est en tout cas à l'ordre du jour, car au moment même où Raymond Barre écartait à l'Assemblée nationale l'idée d'un impôt sur le capital, Michel Poniatowski se déclarait, lui, favorable à une taxation des grosses fortunes. Cette taxation, a expliqué le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est plus justifiée que l'impôt sur le capital. Je crois, a poursuivi M. Poniatowski, que la justice et le rééquilibre de la société passent par une fiscalité qui frappe assez lourdement les très grosses fortunes.
Michel Poniatowski, c'est le Pasqua, c'est le Sarkozy, enfin, pour exagérer un peu, mais de l'époque. C'est pas, ce qu'on entend là, c'est pas un progressiste qui parle, c'est un réactionnaire. Mais on voit quelles sont les lignes, à quel point à ce moment-là, c'est la droite qui est sur le reculoir et la gauche qui est l'offensive, puisque c'est Poniatowski qui dit « D'accord, il faudrait peut-être faire un impôt sur le capital ». À ce moment-là, Raymond Barre est obligé d'intervenir en séance à l'Assemblée nationale. Il dit « Qu'est-ce qu'on va faire ? On va nommer une commission d'experts ». C'est-à-dire, pour se dépatouiller, y compris avec sa majorité de droite, il dit « Bon, bah, on va nommer des experts ». Et puis bon, les experts sont sages. Maintenant, on le sait bien. On a une série d'experts qui en permanence sont sages et qui promettent, qui disent que la meilleure solution, c'est de diminuer les impôts et d'augmenter les charges sur les salaires, de diminuer les déficits et ainsi de suite. Ça, c'est maintenant, on a une sagesse des experts. Et à ce moment-là, les experts rendent un rapport qui n'est pas si sage que ça. Et c'est ça, là où ils sont bien embêtés, la droite est bien embêtée, c'est-à-dire que ces experts nommés par Barr, qui sont pour l'un professeurs d'université, qui ne sont pas des révolutionnaires, mais ils disent, oui, un impôt sur le capital, c'est peut-être compliqué à faire, mais ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter l'impôt sur les droits de succession. Alors là, c'est la catastrophe. C'est des experts, hein, c'est des sages, on les a nommés les trois sages. Et voilà que les trois sages, ils disent, ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'impôt sur les droits de succession. Là, c'est insupportable pour Raymond Barre à l'époque, c'est insupportable pour Valéry Giscard d'Estaing, donc ils enterrent le dossier rendu par cette commission, et après ça, tous les ans, on a la gauche qui revient à la charge et qui dit « Oui, mais finalement, est-ce que c'est vraiment juste où est passée cette commission où est passé le rapport de ces experts et tout ça ?» Jusqu'en 1981, où là, la donne change, puisqu'il y a une décision qui est prise, pas complètement, mais enfin, d'augmenter partiellement l'impôt sur les héritages.
Enfin, M. Barr a abordé la fameuse question de l'impôt sur les grosses fortunes réclamée tout en même temps par l'opposition et certains courants de la majorité.
Il y a quelques mois, le Parlement a ajouté une pièce nouvelle à la fiscalité française frappant le capital par l'adoption de la loi sur la taxation des plus-values. Il aurait été possible, à ce moment-là, d'établir un impôt sur la détention du capital au lieu d'un impôt sur les plus-values. C'est un autre choix qui a été fait, et si mes souvenirs sont exacts, ce choix a été explicitement précisé et il a été confirmé. On peut se demander s'il est cohérent, d'un point de vue global, de cumuler une imposition généralisée des plus-values et une imposition sur la détention du capital. On notera à ce sujet qu'à l'exception de la Suède et du Danemark, aucun pays comparable à la France ne pratiquerait un tel cumul.
Dans cette décennie 70, où on entend Michel Poniatowski venir réclamer un impôt sur le capital, c'est de se dire qu'il y a, par exemple, un autre personnage, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui est à l'époque plutôt un centriste, on va dire, un homme proche, qui a pu être proche même de Giscard d'Estaing, et qui vient dire dans son manifeste radical en 1970 qu'il considérait comme un objectif de première importance, sinon même le premier de tous, l'abolition de la transmission héréditaire de la propriété des moyens de production. Lui, qu'est-ce qu'il réclamait ? Ce centriste, ce radical de gauche, il réclame là l'abolition de la transmission héréditaire des moyens de production. C'est-à-dire qu'une usine, une entreprise ne puisse plus se transmettre de père en fils. Et là, on n'est pas au Parti communiste, on n'est pas au nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot, on est vraiment au centre-centre-gauche, quoi. Et là, c'est le centre-centre-gauche qui réclame ça. Alors là, il faut voir le bouleversement dans lequel on est, maintenant, 30 années plus tard, pendant la présidentielle de 2007. Pendant la présidentielle de 2007, il y avait un fils d'eux qui faisait quand même des siennes, qui était Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère, qui est patron de ADS, qui décide la fermeture, enfin la suppression par le plan Power 8 de milliers d'emplois en Europe, de casser le fleuron de l'industrie européenne, le fleuron de l'industrie aéronautique européenne. Et là, il n'y a pas un seul moment où on entend Ségolène Royal, par exemple, tonner contre Arnaud Lagardère, contre cet héritier, et réclamer la remise en cause des droits de succession dans les entreprises.
Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que même dans des pays comme les États-Unis, qui sont quand même censés être un peu, justement, à la pointe des idées libérales, on observe des gens comme, par exemple, Warren Buffett, dont on a déjà parlé, qui est une des premières fortunes mondiales. Warren Buffett, donc, lui, milite pour plus d'impôts sur l'héritage. Et lui pense qu'au contraire, ce n'est pas du tout une bonne idée de donner cet argent-là comme ça, mais il espère que ses fils et ses filles vont travailler aussi d'arrache-pied pour gagner leur propre fortune.
Oui, bon, Warren Buffett, dont j'ai déjà eu l'occasion d'exploiter certaines de ses citations, puisque c'est lui qui déclarait la guerre des classes existe, c'est un fait, et c'est la mienne, celle des riches qui mènent cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. Donc, c'est un libéral, on peut dire presque parfois utopiste, Enfin, c'est, ils se réclament des origines du libéralisme et ainsi de suite. Et effectivement, ce qu'ils pensent, c'est qu'il n'y a rien de plus juste. Mais c'était la pensée, en gros, de la gauche traditionnellement. Il n'y a rien de plus juste que l'impôt sur l'héritage. Elle remet à plat les fortunes. Elle permet que, bah, puisqu'on dit que c'est au mérite, au moins sur le terrain du capital, sinon sur le terrain de la culture ou de la scolarité, puisqu'on sait que là aussi, les enfants de riches sont généralement bien avantagés, mais au moins sur le terrain du patrimoine et de l'héritage, eh ben, sur la ligne de départ, les choses peuvent être au moins un petit peu... les compteurs peuvent être au moins un petit peu remis à zéro. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout... Ça n'est pas du tout une priorité. Alors, Sarkozy, il n'a pas osé s'attaquer directement à l'impôt sur l'héritage. Enfin, à dire, bon, bah, on va diminuer l'impôt sur l'héritage. Non, il s'y est pas pris comme ça. Il s'y est pris par la multiplication des niches fiscales, par la multiplication
des franchises.
Parce qu'au fond, ça aurait pu être dangereux politiquement quand même de dire, bon, bah, même les plus riches ne paieront pas d'impôt sur les droits de succession.
Mais le résultat quand même des courses est aujourd'hui, on constate, enfin en tout cas vous en parlez dans cet article, que... un euro hérité est 2 à 3 fois moins imposé qu'un euro gagné à la sueur de ses 35 heures. Donc finalement, cette politique de défiscalisation a quand même bien fonctionné.
Ah, ça a fonctionné à fond. Il n'a pas osé prendre le problème de front, mais enfin, ils ont gagné. Et je pense que c'est l'un des objectifs que pourrait se fixer la gauche, qui est de se dire, bah, voilà, peut-être que sur ce terrain-là, il y a à s'armer, il y a à repartir en marche avant sur le terrain de l'impôt sur les droits de succession.
Il en a vu de toutes les douleurs, il est revenu de tous les combats, mais il y en a un qui lui fend le cœur, c'est la somme que lui prend l'État. Après le troisième tiers, les mots deviennent dérisoires. On paye le prix de ce qu'on nous impose. On se demande pourquoi. Mais peut-être, oh, peut-être, une goutte dans la mer.
Oh là là, c'est peut-être.
Oui, c'est peut-être.
Une goutte dans 2 heures.
Oui, mais c'est ma raison d'être.
Ma raison d'être.
Oui, mais c'est ma raison d'être.
Ma raison d'être.
Oui, c'est notre raison d'être.
Ensemble contre l'impôt sur les grandes fortunes, ISF, le nouveau single de Florent Pagny, en vente dans tous les magasins.
Eh ouais, man, quand il y a un truc vraiment trop grave, c'est aux artistes de le dénoncer, man.
Pour notre raison d'être.
Marche avant, marche arrière avec une référence à Pierre Bourdieu.
Évidemment, quand on aborde un dossier tel que les fils et les fils d'eux, ça peut rappeler une des offensives intellectuelles très importantes de la fin des années 60. C'était en 67 et Pierre Bourdieu et Passeron publiaient les héritiers dont les lectures les plus enthousiastes ont dit qu'elles ont... ce livre a inspiré ou donné corps à mai 68. Quelle lecture, quel lien vous faites avec ben justement tout ce espèce de corpus intellectuel de penser la reproduction de classe et tout à travers cette actualité un peu brûlante?
Bon, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je pense que cet héritage, il se donne à voir jusqu'à la farce, jusqu'au grotesque, sans pudeur. Vous voyez, il a même plus besoin de s'habiller. Si on prend le truc de Jean Sarkozy, mais par exemple, Jean Sarkozy, là, je le disais, a été remplacé par Ceccaldi Reynaud, maire de Puteaux, fille de Ceccaldi Reynaud, ancien député maire de Puteaux. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ce qu'il y a, c'est que ce qui, chez Bourdieu, bon, c'est notamment sur... Bourdieu, lui, c'est ce qu'il démontre, traverse toute la société. Nous, ce qu'on fait, c'est sur la fraction supérieure de l'élite. Mais ce que montrent Bourdieu et Passeron, c'est que c'est valable, y compris pour...
C'est que le scandale existe aussi chez les ouvriers. C'est-à-dire que quand tu es ajusteur, le scandale, c'est que ton fils pourra récupérer ton poste d'ajusteur à l'usine.
Et je pense que malheureusement, non, je ne devrais pas dire ça. Mais il y a eu quelque chose de cassé par ailleurs de ce côté-là aussi. C'est un sujet qui n'est pas abordé ou alors par un portrait à la fin du dossier, mais c'est qu'au fond, ces dynasties ouvrières qui ne sont pas une joie en soi, hein, mais qui sont au moins à pis-aller, il y a une certitude de pouvoir se raccrocher à quelque chose, ben là, même ça n'est plus une certitude quoi, de ce point de vue-là. Donc, je ne suis pas sûr qu'un fils d'ajusteur aujourd'hui soit convaincu que son avenir soit comme ajusteur. Tu évoques donc mai 68 et qui a été quand même un moment où on peut faire des tas de reproches à mai 68, mais où l'élite qui était au sommet des médias, de la culture, et y compris du gouvernement, s'est retrouvée mise en cause, secouée. Et à mon avis, on peut voir mai 1981 comme étant la mise à bas, y compris peut-être les gaullistes, qui ont toute l'élite gaulliste issue de la résistance, qui a été balayée par mai 68 un an après. Alors mettre Pompidou à la place de De Gaulle, c'est pas franchement une victoire, mais il y a eu à mon avis un mouvement quand même. La question pour moi, c'est comment ça se fait que depuis 40 ans, en gros, depuis mai 68, il n'y a rien qui bouge de manière assez forte dans le pays pour que tous les noms qui sont connus aujourd'hui ne soient pas balayés demain. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Là, aujourd'hui, c'est comme s'il était évident que un Drucker produit un autre Drucker et qu'il n'y a rien qui vient entraver le fait qu'un Drucker succède à une autre Drucker. Quoi.
Le petit fakir.
Tout le monde a lu ce petit journal.
Bizarre.
Il se le passe.
Pour ne pas dire étrange, cette cérémonie d'initiation qui vient de se dérouler en plein XXe siècle.
Le petit fakir. N'a jamais peur du pire.